peut commencer. Bon, présenter Mustapha est un plaisir pour moi parce que chaque fois que je rencontre Mustapha dans les congrès balines, dans les journées, j'ai beaucoup de plaisir à discuter, à dialoguer avec lui. C'est toujours une rencontre. Il m'apporte un univers et j'espère qu'il va vous apporter ce même univers. Donc Mustapha est psychanalyste au Havre et il va vous parler d'une si étrange proximité. Vous verrez, il m'a passé son texte hier soir, vous verrez que vous allez retrouver et faire un peu regrouper l'ensemble de tout ce qui a été dit depuis la première intervention d'hier matin. Voilà, et je pense qu'il y aura, j'espère qu'on aura un temps suffisant de questions, parce que c'est sûrement très important ce qu'il va vous dire à travers deux cas Balint, de travail Balint, qu'il a fait, donc, dont il a l'expérience. À toi, Mustapha.
Bien, merci beaucoup Yvette, merci à vous d'être encore là, et puis merci à tous les intervenants avant, parce que c'est vrai que c'est toujours plaisant d'entendre quelque chose et de pouvoir parler avec des personnes qui parfois n'ont pas les mêmes opinions que nous. Voilà, moi j'aime bien ça. Alors j'ai appelé ça une si étrange proximité. Je commencerai par citer Jean-Paul Valabrega dans Les mythes, conteurs de l'inconscient. Il dit ceci: les mythes, les contes, les rêves et les fantasmes proviennent de l'inconscient. Leur différence est que le fantasme est un fragment, une matière première comme la pierre, le bois, le minerai, voire un vestige, tandis que les mythes, les contes et certains rêves, mais pas tous, sont des récits. Voilà, je voulais commencer par ça. Et en démarrant, peut-être rappeler juste très rapidement que le groupe Balint est né d'une réflexion métapsychologique. Le leader reste le garant de cette dimension et libre des considérations psycho-anthropologiques qui ne sont que les reliquats de la psychiatrie coloniale. Je pourrais m'en expliquer. Les interprétations culturalistes concernant les migrants renferment ceci dans un objet d'étude connu par avance. Freud, interrogeant les mythologies, grec, Œdipe, et ensuite monothéiste Moïse, a montré l'universalité de la condition humaine. Jean-Paul Valabrega, traducteur du livre d'ailleurs de Balint, Le médecin, son malade et la maladie, a continué ce travail en publiant ce livre dont je parlais en avant-propos, Les mythes, conteurs de l'inconscient. Nous exposerons à partir de deux cas cliniques, deux situations cliniques, que la question centrale dont la souffrance des personnes marquées par des déplacements effectués ou subis, et l'exil, ex-il, en dehors du lieu, avec son lot de pertes et de manques, aspect propre à tout être humain, quelle que soit la diversité socio-culturelle ou linguistique. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'anthropologie ? L'anthropologie est la science descriptive de l'homme. Elle peut être culturelle, médicale, sociale, politique, économique, psychologique, etc., etc. C'est donc de ce fait l'étude des systèmes de croyances. L'ethnologie, quant à elle, recouvre les domaines de l'anthropologie culturelle et sociale. Dès les débuts du XXe siècle, plusieurs anthropologues vont faire le lien entre anthropologie et psychanalyse. Geza Rohheim, Borislav Malinowski, Margaret Mead, Abraham Gardiner et Ralph Linton, bien avant Georges Devreux. L'anthropologie clinique et l'ethnomédecine ont pour objectif de tenter une approche des problèmes posés par les phénomènes de communication intra- et interculturelle auxquels les praticiens sont confrontés lors des soins. Afin que l'alliance thérapeutique s'établisse, les deux partenaires, le soignant et le soigné, doivent parler du même corps. Pour cela, il y a nécessité de dépasser la notion de modernité de passé afin de mettre en évidence ce qui serait de l'ordre d'une mémoire active ou d'une mémoire morte, et ainsi ne pas enfermer la tradition dans un musée ou une crypte. Je renvoie au congrès Balint de 2000, Croyance-Croyance.
Qui avait eu lieu à Limoges.
À Limoges. La culture est dynamique. car source d'imagination lorsqu'elle accepte de travailler la mémoire dans tout ce qui touche à l'humain. Les rites de la naissance à la mort, les pratiques éducatives lors de l'allaitement, l'éducation sphinctérienne, l'alimentation, la façon d'appréhender la maladie, le handicap, la douleur, etc., etc. Tous ces éléments construisent un paysage culturel mental qu'il nous faut apprendre à décrypter pour que ça ne reste pas dans la crypte. Le corps est en soi un symptôme de culture, une anatomie générale et bien des conceptions de la maladie et de la santé qui découlent des représentations liées à une logique des systèmes de croyance. Les deux exemples cliniques que je vais vous présenter ont été travaillés, l'un avec un groupe Balint de praticiens hospitaliers, fonctionnant depuis plus de 2 ans, l'autre avec un groupe de Balint de médecins libéraux en cabinet, fonctionnant depuis plus de 5 ans. Et de ce fait, l'investissement mutuel balintien existe au sein de ces deux groupes du fait d'une dynamique affective bienveillante du groupe. À cet effet, les constructions et commentaires effleurent parfois l'interprétation, comme l'expose Michael Balint dans un texte paru dans Inconscient et culture et intitulé « Psychanalyse et pratique médicale », dans lequel il fait le choix du psychanalyste leader et non du psychanalyste éducateur, en dissociant ce qu'il appelle « transfert privé » et « transfert public ». Je cite, c'est à la page 27. « Nous sommes particulièrement attentifs à préserver la dignité, l'indépendance et la responsabilité adulte des médecins qui y participent, sans quoi ils ne pourraient fonctionner comme membres à part entière d'une équipe de recherche. C'est pourquoi nos interprétations ne concernent presque jamais les motivations cachées du comportement thérapeutique du médecin, sphère que nous en sommes venus appeler son transfert privé. » On devrait le lire, ce texte. Premier cas clinique. Une assistante sociale rapporte le cas suivant qui se passe dans une maternité et précisément dans le service de néonatologie. Un enfant prématuré vient de naître avec un pronostic de mort. La mère, prime part, est âgée d'une 30aine d'années. L'information médicale a été donnée aux parents en présence de l'enfant. L'annonce est toujours une révélation et porte en elle une dimension qui n'est pas sans rappeler son caractère quasi religieux. L'annonce faite à Marie, à Moïse, à Mohammed et non pas Mahomet. Laïos, Orphée, etc. Comme toute révélation, elle tient au fait que de dire à l'autre un savoir sur ce qui va advenir entraîne une sidération, une violence. Sa grossesse avait été difficile et une IMG avait été proposée aux parents qui, pour des raisons religieuses, l'avaient refusée. Le médecin et la psychologue qui les avaient suivis ont demandé à l'assistante sociale d'accompagner ceux-ci dans leur démarche juridico-administrative. La voici qui arrive dans la chambre, et là, elle entend un chant religieux qui passe en boucle, et la maman qui tient son enfant dans les bras. Ce qu'elle va lui traduire après. Elle lui dit à son enfant, « Mon fils, merci de nous avoir permis d'être parents, et ce temps que nous passons ensemble est merveilleux, même si toi et moi, nous savons qu'il va être court, puisque ta vie ici va être brève, mais dans l'au-delà, tu seras dans le paradis, parce que tu es un ange. Dieu est avec nous. » Elle dit tout cela en embrassant et caressant son enfant. L'assistante sociale reste figée, sidérée, nous dit-elle, devant cette scène. Elle est bouleversée. Elle se présente et la maman lui traduit les chants religieux et ce qu'elle disait à son enfant, puis elle ajoute « Ne vous inquiétez pas, madame, mon mari a fait tous les papiers et a contacté un imam. » L'assistante sociale a caressé l'enfant, remercié la mère, lui a serré la main et est sortie en lui disant « N'hésitez pas à faire appel à moi en cas de besoin. De toute manière, je repasserai vous voir demain. » L'assistante sociale est sortie et a éclaté en sanglots. « Je n'en pouvais plus. car le souvenir de la mort de mon neveu de 18 mois m'est revenu. Tout comme je m'abstiens d'utiliser des interprétations culturelles dans ma pratique psychanalytique, il en est de même dans les groupes Balint. Ma position montre, lorsqu'il s'agit de migrants, la question centrale dans la souffrance et l'exil. J'ai laissé le groupe associé sur la question du déplacement, de la langue, de la douleur et de la religion. Les membres du groupe l'ont soutenu en lui expliquant qu'elle avait fait son travail et que la mère l'avait protégée. Il s'ensuit une discussion sur l'importance de la religion et principalement chez les musulmans. Puis une collègue, presque, elle se lève presque et nous dit « Juifs, musulmans, chrétiens, athées, qu'importe, nous sommes tous ici parents et pères d'un enfant, ce n'est pas dans l'ordre des choses. » La religion a été pour cette femme d'un très grand soutien. Pour toi aussi, puisque tu as eu une expérience clinique qui te montre que c'est lorsque nous avons l'impression que nous ne servons à rien que nous apprenons. La collègue lui a répondu « Tu as raison, car je suis retourné voir cette femme, famille le lendemain. L'imam et le mari étaient présents. J'ai voulu ressortir. Mais le père m'a retenu par le bras en me disant « Merci, madame, pour tout ce que vous avez fait hier. » Et pour ma part, je n'ai dit que ceci. Car si, comme Michael Balint nous dit, les malades nous font mal là où nous sommes déjà blessés. J'ajoute qu'ils nous permettent de penser et de penser le mal. Et j'ajouterai autre chose, même en écrivant cela, et je ne l'ai pas porté, ça m'a fait penser à la Pietà de Michel-Ange, avec la mère vierge, la Vierge Marie, portant son enfant, abandonné à la mort et en plus par Dieu le Père. Mais dans ce cas-là, le Père était présent. Deuxième cas clinique. Le rapporteur, médecin généraliste dans un village du Pays de Caux, région où persistent encore des médecins de famille. Il nous dit recevoir tous les membres d'une famille d'agriculteurs dont l'une des filles est mariée avec un Sénégalais. Le couple franco-sénégalais vient d'avoir un enfant qui présente une hémiparésie. Le médecin a prescrit des séances de kinésithérapie, prévu une visite chez le neuropédiatre et donné l'adresse d'un CESAD, service d'éducation et de soins spécialisés à domicile, en leur expliquant que la visite sera plus globale. Un mois plus tard, ils reviennent le voir et lui apprennent que leur enfant a deux séances de kinésithérapie comme il avait prescrit par semaine, mais ils n'ont pas honoré le rendez-vous chez le neuropédiatre ni pris contact avec le CESAD. Très étonné, le médecin ne comprend pas l'attitude non compliante des parents. Ils lui apprennent alors que, sur les conseils de leurs parents, ils ont rencontré un marabout et un mage. Ça existe, les mages et des sorciers, même en France, on n'a pas besoin d'aller en Afrique. Je vous renvoie au merveilleux livre, même s'il est ancien, de Jeanne Fabre-Sada, « Les mots, la mort et les sorts ». Et le fait de rencontrer ce marabout et ce mage, ça les rassure, dit-il. La consultation se termine en fixant un nouveau rendez-vous pour le mois suivant. Le médecin rapporteur ne sait pas comment faire car il a peur que l'état neuromoteur de l'enfant ne s'aggrave. Les collègues l'interrogent sur les éléments somatocliniques observés lors de la consultation de l'enfant. Pour le médecin, il n'y avait pas de complications. Le groupe s'interroge alors sur la faculté que nous avons à admettre que le malade, et en l'occurrence les parents dans ce cas, n'ont pas la même vision de la maladie. Le médecin ne doit-il pas entendre le malade parler de la maladie, comme l'apprend Michael Balint d'ailleurs dans son livre. Dans l'après-coup, et un mois après cette séance, le médecin rapporteur du cas nous dit « J'ai revu le couple avec leur enfant et ils m'ont dit qu'ils souhaitaient avoir un deuxième enfant. » et qu'ils avaient pris rendez-vous avec le neuropédiatre. Dans les deux cas, le professionnel a été, par l'étrange attitude du patient, face à la mort annoncée au handicap moteur, avéré. Il a été saisi par cette étrange attitude. Ils ont pu, dans les deux cas, accepter que l'alliance thérapeutique passe, comme souvent, par la sensation de ne pas avoir servi à grand-chose. La présence, l'être là, du professionnel, le médecin, le soignant, le travailleur social, permet aux malades d'accepter la maladie. L'accueil de la parole des malades facilite la rencontre, la relation avec les aléas du transfert et du contre-transfert engendrés par cette étrange proximité. Merci.
Voilà, la parole est à vous. Et comme vous voyez, comme le souligne Baline et comme j'avais souligné à Poitiers, au congrès de Poitiers, il faut du temps, hein, il faut donner le temps de chacun, à chacun, aux soignants, aux soignés, à la famille. Et à notre époque, il est important de le souligner parce que le temps nous est ravi par le système. Donc si vous voulez bien poser des questions à Mustapha, vous l'avez vu pendant le congrès parler, donc il le fera tout aussi bien de ce côté.
Jean-Daniel Gradler, je suis médecin généraliste. Je te remercie, Mustapha, parce que moi, ça m'évoque tout ce que mes internes me disent, parce que de temps en temps, ils sont un peu démunis, comme notre collègue infirmière le soulignait hier, en disant « je ne sais pas quoi faire ». Et le « être là », pour eux, n'a pas forcément de sens. Et moi, je me tue à leur dire « mais si, ça a du sens d'être là, c'est super important ». Ils ne sont pas formés à ça. Et là, tu viens de nous montrer, effectivement, cette assistante sociale qui a simplement été là en tant qu'être humain a fait quelque chose, et je pense que c'est tout un enseignement qu'on doit donner à nos étudiants et aux soignants en général, puisque cette assistante sociale est aussi soignante dans le sens où elle est dans l'équipe de soins. Mmh,
tout à fait. Je ne vois pas ce que je peux ajouter. Merci, Jean-Daniel.
Je te remercie, Mustapha, de cette très brillante intervention. Elle, je trouve extraordinaire par l'émotion qu'elle suscite. Et une des forces d'une communication, quelle qu'elle soit, c'est quand elle éveille en nous des associations de même type. Et pendant que tu parlais de cette patiente bouleversante, effectivement, qui tient son bébé qui va bientôt mourir dans les bras avec ses mélopées coraniques, eh bien, j'ai tout de suite associé avec des cas qui ressemblaient beaucoup à cela. Une patiente que j'ai actuellement en thérapie, qui a perdu son bébé à l'âge de 8 mois en septembre dernier, qui avait une amyotrophie spinale et qui l'a veillé jour et nuit et qui continue à me raconter, ce vécu extrêmement douloureux. Une autre patiente également qui faisait partie des vignettes que j'aurais pu vous donner tout à l'heure, qui a un enfant, qui accouche d'un enfant qui ne mange pas. On lui dit qu'elle ne peut pas déglutir. Et donc, voilà cette femme d'origine maghrébine qui est désemparée et puis qui a des maux de tête. Et puis, elle va consulter comme ça, pour ses maux de tête, pas mal de gens. Et rien n'y fait jusqu'à ce qu'un jour, une oreille attentive se rend compte que c'est son vécu douloureux d'une petite fille qui, ne s'alimentant pas, a eu une sonde d'alimentation, une gastro-ostomie carrément, hein, pour l'alimenter. Et là où je veux en venir, elle est reçue par un médecin dans un service donc adapté et qui lui dit « voilà, je vous ai reçu aujourd'hui parce que pour les enfants qui vont suivre, il est important qu'on sache de quoi votre fille va mourir. » C'est absolument édifiant. C'est absolument édifiant. Le mari est venu, a fait un scandale, a tout cassé dans le service par la violence de ses propos et du fait qu'on ne l'avait même pas convié pour une telle annonce. Donc voilà, heureusement, en contrepartie, nous avons aussi de très belles choses que les soignants peuvent faire et réaliser pour peu qu'on les forme. Et c'est là un des grands messages de ce colloque. Il faut que nous puissions arriver à transmettre ce message et réussir à former un très grand nombre de soignants. C'est pour ça que quand j'ai dit le mot soignant ce matin, j'y incluais tous les soignants. Et par exemple, on parle d'aide-soignant. Je trouve que c'est presque leur faire injure de les appeler aide-soignants. Ce sont des soignants à part entière. Et elles sont aux premières loges et ce sont elles qui manquent cruellement de formation.
C'est fantassin de la santé.
Voilà. Merci, Mustapha.
Je m'appelle Luc Béziot, je suis médecin généraliste en banlieue parisienne. Je voulais juste faire d'abord une petite remarque, c'est que je crois que les médecins de famille n'existent pas que en Pays de Caux. Dans une ville nouvelle, moi j'en suis à la quatrième génération pour beaucoup de mes patients, et je vois les enfants des enfants que j'ai suivis petits. Et donc je crois qu'il faut arrêter cette idée qu'on n'a plus de médecins de famille. Et je pense qu'il faut qu'il y en ait encore. Et je voulais juste associer, comme on le fait tous, parce qu'effectivement, la communication était très forte émotionnellement. Moi, je voulais juste raconter une petite histoire, mais qui rejoint ça, mais qui m'a beaucoup frappé. J'ai eu l'occasion de suivre une femme qui est venue me voir parce qu'elle était en détresse, dans la mesure où elle avait eu 3 enfants avec un mari qui avait eu des relations incestueuses, pendant des années avec ses enfants, en faisant même des films, etc. Il était en prison quand je l'ai rencontré, et elle était très inquiète parce qu'elle s'était rendue compte que ses enfants, qui étaient devenus adolescents, qui avaient été suivis, etc., cherchaient à reprendre contact avec leur père. Elle ne comprenait pas très bien pourquoi. Donc, ensuite, je l'ai accompagnée pendant des années, elle a développé un cancer du sein, etc. Et j'avais l'impression de vraiment rien faire pour elle, et à tel point que j'en ai parlé plusieurs fois en groupe Baline, en me disant, mais qu'est-ce que je fais avec elle? Et un jour, j'ai reçu une lettre du Conseil de l'Ordre, qui avait lui-même reçu une lettre de cette patiente, qui avait dit, voilà, on écrit au Conseil de l'Ordre que pour se plaindre des médecins, moi je voudrais écrire pour dire que je suis contente que mon médecin ait été auprès de moi, et qu'il a toujours été là quand j'en avais besoin. J'étais très étonné de cette lettre parce que j'avais vraiment le sentiment de rien avoir fait. Voilà, c'était juste pour confirmer ce que tu as pu dire.
Comme dans les cas présentés par Mustapha, on se demande ce qu'ils ont fait, les soignants. Mais on se rend compte le fait d'être là et le fait de laisser l'autre dans ce qu'il est, dans sa culture. On n'a pas essayé de faire le deuil. Vous savez, comme on dit maintenant, il faut faire le deuil. On nous demande, on nous conseille. Eh bien là, le deuil s'est fait sous les yeux des soignants, mais sans qu'ils interviennent. C'est ça qui est formidable.
Moi, je voudrais ajouter, je suis un petit peu horrifié par la réponse immédiate, très émotionnelle que font les politiques, parce que c'est eux qui mettent en place des cellules psychologiques quand il y a quelque chose qui se passe. N'ayez pas peur, ne pleurez pas, hein, ne soyez pas mal. Mais si, vous êtes mal, mais si on pleure, mais si on n'est pas bien. Et ça participe au deuil. Alors non. Après, on s'étonne pourquoi il y a des deuils retard par la suite. Que la personne soit là, qu'on dise ils sont là, mais de là à les envoyer, c'est là où on rejoint presque tout à l'heure l'injonction, tu dois aller voir.
L'émotion, alors moi j'ai été professeure dans l'enseignement public, et je viens au groupe Baline pour la première fois. Quand vous avez dit les malades nous font mal là où nous sommes déjà blessés, les larmes me sont montées aux yeux parce que c'est ça dans le groupe Balint hier pour moi, c'est-à-dire que le cas qui était évoqué renvoyait à des choses que j'avais vécues et je me suis demandé s'il fallait prendre des distances par rapport à ça. Après tout, c'est notre expérience, il faut la vivre et même si elle revient, un peu douloureusement, au service des autres peut-être.
Ça fait partie de l'expérience qui nous construit, nous solidifie par la suite parce que c'est pas de moi cette phrase, hein. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est de Michael Balint.
Ce que je dis souvent à mes patients, il ne faut pas confondre dépression et chagrin.
Voilà.
On a le droit d'avoir du chagrin.
Voilà.
Et la dépression, elle ne fait pas essentiellement pleurer, mais les gens ils n'ont plus le droit d'avoir du chagrin. Eh bien si, quand on perd quelqu'un, quand on est en rupture amoureuse, on a du chagrin. Et on a le droit de pleurer et pas de se faire interner. Je vois parfois des généralistes qui ont tellement peur du suicide qu'ils envoient à l'hôpital psychiatrique. Bon, ça fait une cicatrice de plus, hein, je peux vous dire.
Oui, Rémi Muller de Guebwiller dans le Haut-Rhin, médecin généraliste. Par rapport à ce questionnement de savoir finalement qu'est-ce qu'on a fait pour aider les autres, ou du moins peut-être surprise d'avoir tellement aidé des personnes alors qu'on a l'impression d'avoir rien fait. J'ai l'impression que le nœud se situe autour du faire et de l'être. on a toujours l'impression, devant une situation qui se produit, de devoir faire quelque chose, de bien faire, de répondre à un protocole pour être bien par rapport à ce qu'on attend de nous. En fait, ce qui passe surtout, c'est une qualité d'être. Et c'est justement quand on ne fait rien et qu'on est vraiment présent à ce qui se passe, qu'il y a quelque chose qui se passe sur un autre plan et qui peut passer au travers des cultures et qui permet justement le travail sur un autre plan des personnes en souffrance.
Mais dans une relation de soins, une relation thérapeutique de façon générale, je pense que l'on fait toujours passer ce que l'on est plus que ce que l'on sait. Voilà. Et d'autant plus que quand quelqu'un est dans une situation de vulnérabilité très très grande, il perçoit cette parole et ce savoir qui ne se sait pas chez vous et chez nous. Donc la question de la vérité de ce que l'on est fondamentale. C'est pour ça qu'on fait passer ce que l'on est plus que ce que l'on sait. On pourra toujours, je veux dire, lire des centaines de livres si effectivement il n'y a aucune intégration psychique, si ça ne transpire pas, puisqu'on parlait de sensorialité, d'éprouver par nous, eh bien, on n'est pas là, on est ailleurs, on est dans les livres.
D'autant qu'avec les migrants, c'est là. On n'a pas leur culture, on ne peut pas communiquer d'une certaine façon. Donc, ils ne nous ratent pas sur cette éducation qu'ils ont. Je vois là, cette maman dans le premier cas. Je suis admirative de la façon dont elle tenait la route. Et ça m'est arrivé souvent d'avoir des gens comme ça. J'étais admirative parce qu'ils nous apprennent des choses dans leur culture, dans leur dignité, face à des choses que nous, on a oubliées. La mort, parce qu'on dit soignant, mais on n'est même plus soignant quand le médecin n'a plus de possibilité de faire vivre. C'est autre chose.
Oui. Pardon. Est-ce que le fait d'être et d'être là en ne faisant rien, on ne peut pas être considéré comme un espace de projection et de tenir cet espace?
Oui et non, je vais être normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Tout dépend effectivement de ce qui se met en place. Bien sûr qu'on peut être cet aspect-là, mais c'est important aussi de ne pas être là où on veut nous mettre. Il est un petit peu abordé à sa manière, même si je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses, Daniel Siboni hier. Il ne s'agit pas de se nier, parce que beaucoup font de la canerie, soigner, c'est soigner. Non, moi, je ne me nie pas, hein. Je suis là, hein. C'est moi, ouais. Donc, c'est pour ça que je dis peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Tout dépend effectivement de l'histoire de cette personne vivante que j'ai en face de moi et du vivant que je suis. Alors, il y a des moments, effectivement, ça peut être ce que vous êtes en train de dire. Il y a des moments, il faut faire très attention et après, faire un petit pas de côté parce que quand on reçoit des projections, des fois, ça fait mal. Hein. Comme j'ai appris, j'ai fait de la boxe éducative. Alors, la boxe éducative et la psychanalyse m'a appris à faire le pas de côté. Pas trop de recevoir de coups sur la gueule. Oui. J'ai appris que Michael Banit aussi avait fait de la boxe.
Oui. Ouais. Moi, je voulais revenir sur une expérience personnelle de migrante qui a eu une expérience, donc la maternité en exil. Hein. Donc, ça fait déjà 20 ans que je suis en France, mais le premier enfant. C'est hier, en fait, à un séminaire de Claire Mestre qui parlait justement de cette thématique-là sur l'exil et la maternité. Elle parlait des pathologies, justement, propres, comme ça, aux femmes qui accouchent, de vomissements gravidiques qui duraient pendant toute la grossesse et tout. Il y avait ma grande sœur à côté, j'ai dit, c'est vrai, j'ai dit, moi, j'ai pas arrêté de vomir tout le long de la grossesse jusqu'à 9 mois et du manque de la mère. Et j'arrêtais pas de réclamer ma mère jusqu'à elle est venue 2 mois avant. Et la seule chose que j'arrivais à déglutir, à avaler, c'était des pâtes faites maison, hein, des pâtes kabyles, dans du lait. Et c'était la seule chose que je ne rendais pas. C'était vraiment vers la fin de ma grossesse. Je n'avais pas pris un gramme à ce moment-là, parce que je vomissais vraiment jusqu'au sang, tous les jours, et je dormais comme ça. Je vivais très, très mal. À ma troisième grossesse, ma mère n'était pas là, n'avait pas de visa, impossible qu'elle ait le visa, impossible qu'elle soit présente. Ce n'était pas tant que je la réclamais, mais bon, c'était très, très dur. Donc, j'avais fait une toxémie gravidique, hémorragique, etc. Donc, j'étais un peu dans un état second. La petite était très courageuse, calme, etc. Elle ne pleurait pas beaucoup. Bah, après, deux semaines après, elle a fait quand même une bronchiolite parce que je l'avais contaminée. Elle fait un petit rhume à deux mois et elle me fait... Je parlais du co-sleeping, justement, je voulais revenir sur cette histoire de culturel, le fait que mes enfants, hein, mes filles, dorment avec moi pendant de longs mois avant qu'elles aillent. Donc ça ne m'a jamais trop posé problème. À ce moment-là, la petite était à côté de moi, elle avait le nez bouché, elle s'étouffait, et puis je ne savais pas trop quoi faire. Donc je réveille mon mari, il était 11h du soir, je lui dis « Lève-toi, Dounia, ça ne va pas, elle n'a pas l'air d'aller bien. » On sort... rapidement dehors, pieds nus, parce que moi j'étais en robe comme ça d'intérieur, très très vite. Et au bout d'un moment, je la sentais plus. La petite, on était au parking, je la sentais plus. Elle était complètement, voilà, je sentais plus. Fait un apnée, elle ne respirait plus. J'étais clouée, j'aurais pu être paralysée. Puis en même temps, j'ai eu le réflexe de lui aspirer le nez avec ma bouche. Donc de lui prendre ce qui bouchait. Donc je prends la petite, je fais comme ça des trucs de secours et je lui aspire le nez, je lui enlève tout, mais pendant quelques secondes qui m'ont paru éternelles, elle bougeait vraiment plus, quoi. Elle était complètement... elle est revenue, je ne réalisais pas qu'elle est revenue, la petite est revenue à elle, je l'emmène à l'hôpital en tremblant, je dis, elle ne respirait plus, puis ils n'arrivaient pas à comprendre, je dis, elle ne respirait plus, j'avais l'impression qu'elle allait mourir et tout. Bon, après, elle passe une batterie d'examens, etc. Deux mois, et on ne m'a jamais expliqué. Elle a fait une semaine, ils ont dit que c'était peut-être de reflux, c'était peut-être ça. Elle m'a refait un apnée. Deux fois, je réagis de la même façon, exactement de la même façon. Je réagis, je suis là. Je la fais dormir à côté de moi pendant toute cette période de fragilité. Après, je me suis mis à chercher sur Internet, apnée du nourrisson, puis ça marquait MSN. J'ai dit, c'est quoi cette histoire, MSN, c'est quoi ça? Mort subite du nourrisson. C'était tout de suite associé. Il y avait un médecin, il m'a dit, si tu n'avais pas été là, tu as eu les bons gestes, effectivement. Il ne savait pas trop si c'était le geste que je devais avoir, mais je l'ai eu instinctivement. Je regarde sur Internet, je vois que les Africaines nettoyaient le nez de leur enfant quand il était bouché par cette technique.
Exactement.
Moi, ce n'est pas une technique que j'ai appris particulièrement, mais je l'ai fait naturellement. Et j'ai lu des articles, je commençais à essayer de voir d'où ça venait, etc. Je suis tombée sur un article comme ça scientifique qui parlait de l'état de la maman et l'enfant, des choses qui se communiquaient. Après, je me suis dit, si ça se trouve, moi, j'étais dans un état de morbidité, vu que j'avais fait une toxémie, j'ai failli mourir à l'accouchement. J'étais un peu, la petite a essayé d'aller bien pendant un moment. Puis je me suis dit, tiens, là, je risque de la perdre, il faut que j'aille mieux. Puis je me suis, moi-même, prise en charge, comme ça, dans une prise de conscience, je me suis dit, c'est fini, il ne faut plus qu'elle m'en fasse. Et effectivement, depuis cette seconde-là où j'ai décidé que la petite, qu'il ne fallait plus qu'elle fasse d'apnée, il fallait que ça s'arrête. Et elle n'est pas tombée malade pendant deux ans. Elle n'a même pas fait d'angine, rien du tout. Moi, déjà, j'allais mieux. Et puis, c'est pour dire le processus, là, de comment les choses se sont...
En tous les cas, merci beaucoup de nous offrir cela, en plus, de cette manière-là. Et puis, c'est vrai que ces pratiques, existent dans des populations africaines, amérindiennes aussi. Hein. Mais en Afrique du Nord, quand on... Le cérumène, quand l'oreille est bouchée, la maman aspire. Hein, elle le fait. Hein, va aller demander ici à une maman. Non, il faut qu'elle avec du sérum physiologique, mais ici et tout. Alors on va voir l'otorino là qui. Non, la maman, elle le fait. En Afrique du Nord, ça se fait. Ça, et en Afrique noire aussi, pareil. Comment ?
Les animaux le font.
Ben oui, ça reste inscrit peut-être. C'est ça, peut-être. Ben oui.
On est très sophistiqués.
Jeanne, les sorts. Jeanne Favre Saada. Est originaire de Tunisie aussi. Hein. Ah, c'est tunisien.
Oui, mais elle a écrit quand même sur le pays de Caux.
Le pays de Caux, elle a écrit d'autres, mais celui-là, c'est le plus connu. Hein,
Oui, elle a beaucoup écrit sur la sorcellerie en Pays de Caux. Voilà. Il y en a aussi en Limousin, puisque je suis limousine. Et c'est pour ça qu'on avait fait le congrès sur les croyances en 2000 à Limoges.
Oui, par rapport au premier cas, Je me présente, oui. Joëlle Lehmann, généraliste de famille en plein Paris, plusieurs générations. Et par rapport au premier cas, et sans aller, sans être dans le thème de ce congrès, je dirais que les patients nous apprennent tous les jours, justement, à ne pas aller trop vite. Quand vous parliez des cellules de crise après un trauma, etc., moi, je pense à toutes ces femmes à qui on propose une IVG thérapeutique à un certain moment et qui, là, c'est magnifique, cette parole de dire on a pu être parents. Je trouve ça magnifique. Et c'est comme ça qu'ils ont pu faire le deuil et pas avec l'IVG thérapeutique. Mais il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein, j'en ai d'autres. Voilà.
Tout à fait.
Bon, ben, je crois que le temps est passé. Hein. Voilà. Peut-être que Moustapha répondra à chacun.
En tous les cas, merci beaucoup. Merci à vous.
Merci.